Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Togo, Vert et Virage. Au programme, Ralentir pour mieux vivre. Et Sophie Thibault, Je n'avais aucun plan de carrière. Bonne écoute.
Ralentir pour mieux vivre. Un texte de Isabelle Létourneau, paru le 7 juin 2023 dans Togo. Qu'est-ce que ça signifie, ralentir? Ça implique de se concentrer sur ce qu'on fait, de prêter attention à la personne avec qui on parle ou avec qui on partage un moment, plutôt que de constamment se connecter à notre cellulaire ou à notre ordinateur. C'est faire une seule tâche à la fois, au lieu de sauter de l'une à l'autre sans vraiment se consacrer à aucune. C'est cesser de penser que tout est urgent et qu'il faut aller vite au travail, vite à l'épicerie, vite à la maison. C'est aussi cesser de penser qu'il faut toujours en faire plus ou toujours en avoir plus. Plus de boulot, plus de loisirs organisés, plus de vêtements, plus de gadgets. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se transformer en escargot. Il s'agit plutôt de trouver la bonne vitesse pour soi, pour son bien-être et celui de la planète. Pourquoi devrait-on ralentir? C'est une bonne question. Beaucoup de personnes se disent « Est-ce qu'on souhaite vraiment diminuer sa productivité? » Ou « Pourquoi laisser de côté notre liste de choses à faire? Elle ne fera que s'allonger. » Ça peut effectivement sembler contre-intuitif, mais ralentir peut être un moyen plus rapide d'atteindre nos objectifs. Comme aime le répéter mon fils de 22 ans à son petit frère de 10 ans, « Prends ton temps, ça va aller plus vite ». Lutter contre notre envie de vivre et de travailler plus vite et de consommer plus nous aide à prendre de meilleures décisions, à nouer des liens plus profonds avec les gens, à vivre des expériences significatives tout en améliorant notre bien-être physique et mental. On subit moins de stress, on réduit la surcharge mentale, on délaisse l'automobile, quand c'est possible, pour se rendre à nos rendez-vous à pied ou à vélo, on fait plus de place au sommeil. À la suite de la pandémie, de nombreuses personnes ont remis en question leur rythme de vie habituel et ont expérimenté un certain ralentissement. La pandémie a également entraîné une augmentation du télétravail, ce qui a réduit les déplacements quotidiens et a permis l'émergence de nouvelles façons de vivre. Pensons à toutes les personnes qui ont migré en région pour profiter d'un rythme de vie différent, axé sur la nature et la lenteur, « slow living ». Le ralentissement a aussi été associé à la redécouverte de loisirs et à la réévaluation des priorités en matière de consommation. Beaucoup d'individus et d'entreprises souhaiteraient conserver les acquis de la pandémie et repenser notre rythme de vie en fonction d'une santé durable. Selon un sondage Omnibus, 54% des Québécois et Québécoises, plus de la moitié, aimeraient ralentir leur rythme de vie. Chez les parents et les étudiants et étudiantes, c'est encore plus. Le projet Ralentir, dont je m'occupe, vise justement à informer et à sensibiliser les gens sur les effets néfastes de la vitesse sur notre santé physique, mentale et sociale, et celle de la planète. Quelles sont vos stratégies pour ralentir? Il existe plusieurs façons de mettre la pédale douce dans toutes les sphères de notre vie. Mais c'est à chaque personne de trouver les façons qui lui conviennent. Voici 8 stratégies pour ralentir que je mets en pratique. Vous écoutez « Ralentir pour mieux vivre », un texte de Isabelle Létourneau, paru le 7 juin 2023 dans Togo. 1. S'écouter. Une des meilleures façons de ralentir notre rythme de vie est de nous écouter. Notre corps envoie des signaux en permanence à notre cerveau, lui indiquant ce dont on a besoin. Parfois, on a besoin de manger. Parfois, c'est d'une bonne sieste qu'on a besoin. D'autres fois, c'est de siroter son café à l'extérieur ou simplement de ne rien faire. Si on est à bout de nerfs et qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi, il se peut que notre corps soit en train de nous dire clairement qu'il est temps de ralentir. 2. Respirer. Quand on sent que le stress monte, on prend une pause et on respire profondément. On essaie de vraiment sentir l'air entrer dans notre corps et le stress en sortir. En se concentrant sur chaque respiration, on revient au présent et on ralentit. 3. Apprendre à dire non. Si on a l'habitude d'aider les autres, on sait à quel point il peut être difficile de dire non. Mais si on essaie de comprendre comment ralentir et se détendre, dire non est une compétence qu'on doit développer. Il faut être capable de se fixer des limites et de gérer notre temps de manière responsable. Ça signifie qu'on doit se laisser suffisamment de temps pour se reposer et se détendre. Il est tout à fait acceptable et même souhaitable de donner un coup de main quand ça s'inscrit dans notre emploi du temps, mais ça ne doit pas devenir une source de stress. 4. Faire moins de choses. C'est difficile de ralentir quand on essaie d'accomplir plein de choses en même temps. À la place, on peut décider d'en faire moins, se concentrer sur ce qui est vraiment important, ce qui doit absolument être fait. On laisse le reste de côté. On apprend aussi à laisser un laps de temps entre nos différents dossiers et nos réunions, entre nos tâches à la maison et nos activités familiales, pour que les journées se déroulent à un rythme moins essoufflant. 5. Être dans le moment présent. Quand nos pensées se tournent vers une tâche à accomplir, quelque chose qui s'est déjà produit ou quelque chose qui pourrait arriver, on ramène doucement notre attention sur le moment présent. On se concentre sur les événements qui se déroulent dans l'instant présent, que ce soit nos actions, notre environnement ou les personnes autour de nous. Cette pratique demande de la patience, mais elle aide à ralentir. 6. Se déconnecter. Si on se promène avec notre cellulaire, on l'éteint. On apprend même à le laisser derrière nous quand c'est possible. On n'a pas toujours besoin de notre téléphone pour aller acheter une panne de lait, regarder un film ou se promener au parc. Si on travaille sur un ordinateur la majeure partie de la journée, on prévoit des moments sans écran pour pouvoir se concentrer sur autre chose. Vivre dans un état de connexion permanente fait en sorte qu'on subit des interruptions et du stress provenant des demandes qui nous parviennent. C'est aussi important de laisser nos écrans de côté au moins une heure avant notre coucher pour favoriser notre sommeil. On se plaint souvent de manquer de sommeil, et c'est souvent là qu'on coupe pour caser toutes nos activités. Pourtant, un bon sommeil est essentiel à notre santé. Et puis dormir, c'est ralentir. 7. Délaisser le mode multitâche. Au travail, beaucoup de personnes parlent du mode multitâche comme s'il s'agissait d'une compétence, mais quand on fait plusieurs choses à la fois, on n'est jamais en mesure de se concentrer véritablement sur ce qu'on essaie de faire. Il faut une quantité d'énergie surprenante pour passer d'une tâche à l'autre et travailler sur plusieurs choses à la fois. Au lieu de pratiquer le mode multitâche, on se concentre sur une seule chose à la fois. Ça permet d'être plus efficace. À la maison, lorsque c'est possible, la même stratégie est aussi gagnante pour profiter pleinement de chaque activité. 8. Passer du temps dans la nature. Notre santé physique et mentale s'améliore quand on passe régulièrement du temps à l'extérieur. Le simple fait d'ouvrir une fenêtre et de respirer de l'air frais est bénéfique. On prend aussi le temps de faire un pique-nique dans un parc, de s'asseoir au bord d'un lac ou de marcher en forêt. Renouer avec la nature peut nous aider à retrouver l'équilibre et à apprécier le moment présent. C'était « Ralentir pour mieux vivre », un texte de Isabelle Letourneau, paru le 7 juin 2023 dans Tougo. Abeilles, guêpes et bourdons. Les distinguer pour mieux les accueillir. Un texte de Daniel Gingras, paru au printemps 2023 dans la revue Vert. Partout sur la planète, les gens s'inquiètent de plus en plus, et avec raison, de la diminution, voire de la disparition complète de populations d'abeilles domestiques ou de pollinisateurs indigènes dans certaines régions. Afin de mieux les protéger, il est fondamental de bien les connaître. Ensuite, vous serez en mesure de leur offrir un environnement invitant. Comme citoyen, vous pouvez agir pour préserver ou accroître la biodiversité. Il est tout à fait possible de créer des aménagements de plantes pour attirer des insectes bénéfiques, des petits animaux et des papillons. Dans le cas des insectes pollinisateurs, qui contribuent à transférer le pollen d'une fleur à l'autre en assurant ainsi la fertilisation des plantes, de même que la production de graines et de fruits, il est essentiel de penser à les attirer dans votre cour. Comment attirer les insectes pollinisateurs? Le meilleur moyen est d'aménager des plates-bandes composées de végétaux dont les fleurs produisent du nectar et du pollen en abondance tout au long de la saison. Plus votre jardin comprend d'espèces végétales diverses, plus vous augmentez vos chances de voir de nombreux insectes pollinisateurs le fréquenter. Pensez également à créer des aménagements qui permettent une floraison étalée dans le temps, de mai à octobre. Choisissez des végétaux qui ont des hauteurs différentes, des couleurs variées. Sachez toutefois que la majorité des insectes voient très bien la couleur jaune et beaucoup moins la couleur rouge. Pensez à intégrer dans votre jardin des végétaux indigènes d'Amérique du Nord. En plus d'être parfaitement rustiques sous notre climat et de bien résister aux attaques des insectes et des maladies, de nombreuses plantes indigènes font partie intégrante de l'écologie des abeilles et des bourdons qui vivent dans nos régions. Ce qui distingue les abeilles, les bourdons et les guêpes. Bien des gens ont l'impression que toutes les abeilles et toutes les guêpes sont noires et jaunes, alors que plusieurs arborent d'autres couleurs comme le vert, le rouge, l'orange et le blanc. De plus, la croyance populaire veut que toutes les espèces d'abeilles, de guêpes et de bourdons vivent en société bien organisée, mais ce n'est pas le cas. La majorité sont des espèces solitaires. Les bourdons, les guêpes sociales et l'abeille domestique ont tous des dards qui injectent un venin et elles s'en servent pour se défendre. La plupart ont un dard qui est lisse, ce qui leur permet de piquer plus d'une fois. L'abeille domestique a un dard en forme de harpon. Il lui est alors difficile de piquer plus d'une fois. Le dard reste pris dans la peau. Alors que les bourdons et les abeilles sont d'excellents pollinisateurs, les guêpes n'effectuent pas ce travail essentiel. Les bourdons. Appelés à tort thon, les bourdons sont les plus gros, les plus robustes et les plus poilus de la famille des apidés. Ils mesurent habituellement entre 6 et 25 mm de long. Les couleurs prédominantes sont le noir et le jaune, avec parfois des motifs orangés, rouges ou blancs. Les bourdons sont des insectes sociaux, vivant en colonies de quelques centaines d'individus. Ils se nourrissent de nectar et de pollen et en rapportent au nid pour nourrir les larves. Ce sont d'excellents pollinisateurs. Les guêpes. Les guêpes sont de taille moyenne. Leur longueur varie entre 10 et 20 mm. Leur morphologie est très similaire à celle de l'abeille domestique, mais les deux principales différences sont l'absence de poils
et un étranglement prononcé entre le thorax et l'abdomen. Certaines espèces font des nids en papier, d'autres des nids en argile ou avec de la boue durcie, d'autres dans des cavités ou des tiges de plantes. Aucune espèce de guêpe n'est pollinisatrice puisqu'elle butine rarement les fleurs. La plupart sont prédatrices. Certaines parasitent, certaines se nourrissent de fruits et légumes bien mûrs et d'autres se nourrissent sur des cadavres. L'abeille domestique. L'abeille domestique est de taille moyenne. La taille des ouvrières est de 11 à 13 mm, celle des mâles ou faux bourdons de 13 à 16 mm et celle de la reine de 15 à 18 mm. À l'état naturel, la reine abeille domestique établit son nid dans des cavités, arbres, sols, roches, cheminées, constructions. Depuis sa domestication par les humains, nous sommes habitués de voir les nids dans des ruches en bois. Un nid ou une colonie peut souvent héberger plus de 20 000 individus, la majorité étant des ouvrières qui s'affairent à différentes tâches selon leur âge. Oui, à plus de biodiversité. Vous souhaitez devenir une terre d'accueil pour petits animaux? En plus de développer une plus grande tolérance envers les animaux susceptibles d'adopter, voire de se loger sans frais dans votre environnement, comme les rongeurs et les marmottes, suivez ces quelques conseils. 1. De plus en plus de municipalités permettent l'aménagement de jardins en façade. Pourquoi ne pas y intégrer des jardins de plantes comestibles? De tels jardins permettent de gagner en autonomie alimentaire, mais aussi d'attirer la faune et les frugivores, les écureuils et autres bestioles qui apprécient fruits et légumes. 2. Vous avez peu d'espace. La culture en bac gagne en popularité et peut avoir certains avantages. Vous avez peu ou pas de terrain? Fleurissez vos balcons. Mettez en terre des plantes grimpantes pour verdir les murs extérieurs de votre habitation, de votre cabanon, de vos clôtures, patios, treillis, etc. 3. Mettez en place du gazon ou des plantes couvre-sol selon la situation plutôt que des pavés de béton ou de l'asphalte. 4. Vous pouvez aussi contribuer à l'accroissement de la biodiversité animale en acceptant ou en tolérant la présence d'insectes et en offrant des mangeoires et des nichoirs aux oiseaux. 5. Enfin, vous pouvez installer des nichoirs pour chauves-souris et des bassins d'eau pour accueillir des amphibiens et des poissons. C'était « Abeilles, guêpes et bourdons, les distinguer pour mieux les accueillir », un texte de Daniel Gingras, paru au printemps 2023 dans la revue « Vert ».
Sophie Thibault, « Je n'avais aucun plan de carrière », un texte de Michel Lemieux, paru à l'été 2023 dans le magazine Virage. Lorsqu'elle s'est lancée en journalisme, Sophie Thibault n'avait pas de plan de carrière ni même d'aspiration bien définie. Aujourd'hui, elle anime le bulletin de nouvelles le plus regardé au Québec. Retour sur une carrière aussi surprenante qu'inspirante. En 2002, Sophie Thibault écrit l'histoire en s'assoyant dans un fauteuil occupé jusque-là par des hommes. Sa nomination à la barre du TVA de 22 heures est alors chaleureusement saluée. C'est la première fois qu'une femme assume seule un poste du genre au Québec. Pourtant, Sophie n'a jamais entretenu ce genre d'aspiration. Initialement, je voulais devenir psychologue. J'ai raté ma vocation, s'exclame en riant celle qui est détentrice d'un baccalauréat en psychologie. Comme ça ne fonctionnait pas à la maîtrise, mon père, qui était en information, m'avait suggéré d'essayer le journalisme. J'ai fait mon certificat et ça a été une révélation. J'ai ensuite étudié à Promédia et c'est grâce à Pierre Dufaux si je suis entré à Télémétropole. À l'époque, je n'avais aucun plan de carrière. J'ai grandi dans l'entreprise presque malgré moi. Je n'ai rien fait pour en arriver là. Le talent n'a pas d'âge. À l'automne 2022, la direction de TVA renouvelle son mandat de confiance en lui proposant d'occuper l'un des sièges les plus convoités dans les médias, celui du bulletin de TVA de 17h en remplacement de Pierre Bruno. Non seulement cette nomination était des plus méritées, mais on lançait un message fort en choisissant une femme de 61 ans. « C'est mon patron qui est venu me chercher », admet Sophie. « En femme vieillissante que je suis, je me disais qu'on allait miser sur des plus jeunes. Je ne me voyais pas à ce poste. Je suis arrivé ici en 1988 alors qu'il y avait encore des machines à écrire. Je vois un lien à faire avec mes insécurités de femme. 2 ans après mon arrivée ici, on m'avait offert le 23 heures aux côtés de Jacques Moisan et j'avais refusé. Je me disais que j'avais des croûtes à manger. Je suis convaincu qu'un homme aurait accepté. » Selon elle, cela s'explique en grande partie par la confiance affichée par les hommes. « J'espère que nos filles seront un peu plus confiantes. Le syndrome de l'imposteur ne doit pas se conjuguer qu'au féminin. » Changement de rythme. Habituée au créneau de fin de soirée depuis 2 décennies, Sophie Thibault a dû s'adapter sur le plan personnel, admet-elle. « J'avais mes habitudes. Durant la journée, j'avais le temps de régler bien des détails concernant, entre autres, la maison. » Maintenant, mes journées sont consacrées au travail et ça se poursuit le soir car je regarde ce que font mes collègues. L'actualité ne prend pas de pause. Par contre, j'ai maintenant un horaire de 4 jours. J'ai plus de temps pour me déposer. Ce poste est fabuleux. J'ai 1 heure et demie de bulletins, de grandes entrevues, des événements importants. C'est le rêve. Je m'implique beaucoup et je suis entouré d'une super équipe. En plus, j'ai du temps et je soupe à la maison. Cocher sa bucket list. Parce que le temps file, la chef d'antenne se questionne sur ses rêves à réaliser. Ces temps-ci, je regarde ce que j'ai couché sur ma bucket list, confie-t-elle. Je rêvais de voir Bora Bora et Tahiti. Je m'embarquerai donc pour la Polynésie française prochainement. Ce n'est pas dans 20 ans que je pourrai faire ça. Je compte par été. J'ai 62 ans et selon toute vraisemblance, il me reste 18 étés. Si je suis chanceuse. Mon père est mort à 84 ans, ma mère à 80 ans. Pour moi, cela marque une certaine finalité. Quoique certains ont une bonne génétique et vivent plus longtemps. Mais dans ma tête, il y a une limite. À cause de l'âge, je me sens obligé de passer à la 2e vitesse. Cette prise de conscience l'incite-t-elle à ralentir ou à songer à la retraite? J'y pense, c'est sûr, mais je ne me vois pas faire ça maintenant. J'ai trop de plaisir pour envisager la retraite. Je ne me vois pas arrêter complètement. Je m'imagine sortir du rythme quotidien qui est épuisant, mais continuer à faire de la photo, peut-être même de la consultation auprès de TVA, si on veut bien de mes services. Je pourrais, entre autres, former des plus jeunes. En décembre dernier, 2 décès ont assombri l'existence de Sophie. Ces départs l'auraient-ils amené à vouloir profiter encore plus de la vie? « Je n'ai jamais eu besoin de ça, » dit-elle sans l'ombre d'une hésitation. « Depuis que je suis haute comme 3 pommes avec une mère malade, j'ai développé le goût de croquer dans la vie et c'est ce que je fais depuis que je suis jeune, seconde après seconde. Chez moi, c'est un état perpétuel. » La photographie me sauve. Passionnée d'information, la chef d'antenne vit au rythme de l'actualité. Elle s'offre néanmoins des parenthèses au cœur de la nature, appareil photo à la main. « La photographie me sauve, » dit-elle. « Ça me prend cet ancrage, cette respiration. Quand j'ai des périodes très intenses, je m'ennuie de prendre mon appareil, d'aller à la chasse aux pixels. » j'ai une chaîne YouTube où je fais de petites présentations. Pendant la pandémie, j'ai publié des photos. Je sentais que les gens en avaient besoin. Je suis une femme de communication. Que ce soit les nouvelles ou la photographie, c'est le même principe. Je cherche la beauté, le contact avec la nature, cet espace de méditation que je ressens lorsque je suis derrière l'appareil. Ça me branche et me permet de revenir à l'essentiel. Elle s'absente pour se soigner. Alors que nous terminions la production de ce numéro, nous apprenions que Sophie Thibault devait s'absenter du bulletin de nouvelles de TVA afin de soigner un cancer de la peau. Cette annonce a suscité une belle vague d'amour, des mots tendres et des encouragements, comme elle l'a écrit sur ses réseaux sociaux. La chef d'antenne a été opérée en avril dernier. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. C'était Sophie Thibault. Je n'avais aucun plan de carrière. Un texte de Michel Lemieux, paru à l'été 2023 dans le magazine Virage.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayé à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.